Europe 1.
17h, 18h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, bienvenue dans Clap sur Europe 1 en direct de Roland-Garros cette semaine. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et même s'il n'y a plus aucun Français en compétition, on a toujours autant de plaisir, évidemment, à être à Roland-Garros. La favorite Iga Swiatek vient de gagner 6-0, 6-0 contre la chinoise Wang sur le court Philippe Châtrier. Et sur le court Suzanne Lenglen, c'est Taylor Priest qui a été d'ailleurs bien hué contre l'Argentin Cerun Dolo. Nous, on est donc dans un studio près du court Philippe Châtrier. L'ambiance est très conviviale. Si vous êtes sur place, n'hésitez pas à venir vous voir. Ce sera avec grand plaisir qu'on va vous accueillir. On va vous accompagner en tout cas pendant une heure sur Europe 1 pour vous parler de l'actualité cinéma marquée cette semaine par les papis qui font de la résistance. On va bien sûr tout vous expliquer dans un instant. Didier Alouche, notre globe-trotteur, sera avec nous depuis Singapour cette semaine pour son JT d'Hollywood et nous parlera du prochain Transformers. La pétillante Camille Chamou viendra nous présenter la comédie Le Processus de Paix qui devrait vous parler si vous êtes en couple et si vous êtes jeune parent. Enfin, ils sont là pour notre plus grand plaisir. Sophie Rosemont et Mehdi Omaïs pour m'accompagner tout au long de cette heure. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Laurie.
Salut Laurie.
Sophie, vous nous avez manqué à Cannes.
Vous m'avez beaucoup manqué aussi, mais grâce à vous, je vivais Cannes de loin.
Comme si vous y étiez. Et Mehdi, ça y est, vous êtes bien remis ?
Non, pas du tout, mais je fais illusion là.
Non, il faut dire que le Festival de Cannes, c'est toujours un plaisir.
Exactement.
Mais c'est un sacré marathon. Alors, on parle de quoi cette semaine ? En dernière partie d'émission.
On va forcément parler de Spider-Man, le second opus animé.
Bien sûr.
Et c'est pas rien.
Et du très beau Île Rouge de Robin Campillo.
Et puisque nous sommes sur le site de Roland-Garros, forcément, je vais vous demander à tous les deux si vous avez un film de tennis de prédilection.
Match Point.
Match Point de Woody Allen.
On est assez raccord.
Scène culte et tellement caliente.
Oui, c'est un film intense, c'est un film à la fois pervers, suave, plein de thrillers, de désirs, de passion. Scarlett Johansson, et je te laisse parler d'acteur.
Jonathan Rhys-Meyers, évidemment, on a une petite faiblesse, il est extraordinaire dans ce film, c'était son film maman, on peut le dire, là, depuis on est là, bon bah, on l'a aimé, là, c'est bon, il a tout donné.
Et on l'a perdu de vue. Un petit extrait pour se faire plaisir.
Avec plaisir.
Il faut vous appuyer et puis suivre la balle.
Je me débrouillais très bien jusqu'à ce que vous arriviez.
C'est l'histoire de ma vie.
Quelqu'un vous a déjà dit que vous avez un jeu très agressif.
Et quelqu'un vous a déjà dit que vous avez des lèvres très lascives.
Extrêmement agressif.
J'ai l'esprit de compétition. C'est repoussant.
J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir.
Alors déjà qu'il fait chaud ici à Paris, à Roland-Garros, avec Matchpoint, on fait grimper la température. Voilà pour le programme de Clap qui commence maintenant.
Europe 1, 17h, 18h. Clap.
Alors c'est une musique qui correspond bien à l'esprit de compétition ici à Roland-Garros puisque je rappelle que nous sommes en direct sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, mais c'est pas pour ça qu'on vous passe la musique du bon, la brute et le truand, c'est pour parler de Clint Eastwood. C'est l'une des actualités de la semaine. Clint Eastwood a fêté ses 93 ans. Alors déjà l'occasion pour son ami Arnold Schwarzenegger de lui faire une touchante déclaration. Il a posté une photo d'eux sur les réseaux sociaux et il a écrit « Joyeux anniversaire Clint, tu m'as inspiré, tu m'as encadré et tu es un ami merveilleux. Merveilleux. À 93 ans, tu prouves que les héros ne prennent pas leur retraite. Ils renaissent. Tu es une légende. » C'est beau, non?
C'est mignon, Mehdi. Tous ces seniors là qui se font une petite déclaration d'amour. On ne sait jamais le temps qui nous reste. Donc c'est, oui, c'est plutôt touchant.
Ça coupe le souffle. Clint Eastwood, c'est une légende taillée au burin du cinéma mondial.
C'est vrai. Donc, oui. Alors, si l'acteur réalisateur Clint Eastwood est infatigable, on le sait, il a sorti en 2021 encore un film, Le Cry Macho. On a également appris qu'il s'apprêtait à tourner son ultime film, cette fois. C'est son 40e, un thriller intitulé Juror 2, juré numéro 2. Alors qu'un homme se retrouve juré d'un procès pour meurtre, eh bien, il découvre qu'il est à l'origine de cet acte criminel. Le film raconte donc son dilemme. Vous en avez entendu parler, tous les deux? Vous avez d'autres informations pour nous?
Un film de procès, apparemment, il veut vraiment respecter tous les codes du film de procès. Donc, en sens inspirant sans doute de 8 hommes en colère, donc on va voir.
Après, c'est juste qu'il y a beaucoup, à chaque fois on nous dit que c'est le dernier Clint Eastwood, que c'est le dernier film testamentaire, donc il n'a qu'à continuer à en faire. On sera toujours là pour le voir testamentairement parlant.
Alors, une autre légende du cinéma a annoncé son prochain film, un indice. Nous avons eu la chance de le recevoir la semaine dernière dans Clap.
Martin Scorsese.
Elle est trop rapide.
Ouais. Franchement.
Ah, quand on parle de Marty,
on est très très content. On aime beaucoup Martin Scorsese ici, évidemment. Alors, à l'occasion d'une visite en Italie, il a rencontré le pape François et il a confié par la suite qu'il réaliserait un biopic sur Jésus. Alors, attention, je le cite. J'ai répondu à l'appel du pape aux artistes de la seule manière que je connaisse, en imaginant et en écrivant un scénario pour un film sur Jésus. Ça vous inspire quoi ?
Bah, ça nous inspire beaucoup évidemment d'attente, mais aussi d'appréhension, parce que la dernière fois qu'il a voulu faire, enfin qu'il a fait un film sur Jésus, la dernière tentative de Jésus-Christ,
tentation,
en 1980, tentation, bah voilà, la tentative, tentation, on marquera le
lapsus révélateur. La dernière tentation du Christ.
Lapsus révélateur. Mais c'est vrai que c'était une belle tentative, c'était pas son meilleur film, mais surtout ça avait fait un énorme scandale en 1988. Le cinéma Saint-Michel avait été brûlé, 13 blessés tout de même. Donc espérons que tout va à peu près bien se passer cette fois-ci.
Moi, c'est juste, ça m'étonne pas parce que le catholicisme a irrigué la filmographie de Martin Scorsese. Donc, c'est intéressant de le voir sur un biopic qui, a priori, serait plus littéral que celui de La Dernière Tentation du Christ.
Avec moins de sexualité dedans, parce que voilà. C'est là où il avait un peu poussé le bouchon quand même. Jésus, il était
moins
un peu...
Moins de tentation.
Il faut rappeler qu'il est quand même assez expert dans l'art des biopics, Martin Scorsese. Hein, Raging Bull, on a eu également le film sur la vie du Dalai Lama, Aviator. Et effectivement, vous l'avez cité, celui sur Jésus dans La Tentation du Christ. Le film avait fait beaucoup parler à l'époque.
Je n'ai jamais été crucifié. Je ne suis jamais revenu d'entre les morts parce que je suis un homme comme n'importe qui. Pourquoi tu dis ces mensonges ?
Mais de quoi tu parles ?
Je suis le fils de Marie et de Joseph. Je suis celui qui prêchait en Galilée. J'avais des adeptes. Nous avons marché sur Jérusalem. Pilate m'a condamné et Dieu m'a sauvé.
Non, ce n'est pas vrai.
Alors, on va enchaîner avec une double news d'ailleurs. Et si je vous passe cette musique, je vous en ai parlé en début d'émission. J'ai dit cette semaine, les papis font la résistance. Alors, après Martin Scorsese et Clint Eastwood, qui eux ont des nouveaux projets en réalisation, eh bien, deux légendes du cinéma font parler d'elles. Est-ce que vous savez pourquoi tous les deux?
J'ai une petite idée.
Un petit carnet rose.
Deux carnets roses.
Oui, deux carnets roses. À 79 ans, Robert De Niro vient d'être papa. Et Al Pacino, lui, à 83 ans, s'apprête à le devenir. C'est assez imminent. Ce sera son quatrième enfant, mais le premier avec sa compagne actuelle, qui a 29 ans. Il y a quand même une différence d'âge considérable.
Ce qui n'empêche pas de leur souhaiter tout le bonheur du monde, ma chère Laurie.
Bien sûr. Et à cet âge-là, ce qui est bien, c'est qu'on dort beaucoup moins quand on est une vieille personne. Donc, du coup, les nuits blanches, les couches à changer, ils vont se montrer très utiles. Et
ça
on est toujours
mieux.
Content de savoir qu'un homme peut se montrer très utile, même si on doit attendre qu'il ait 80 ans pour ça. On va voir.
Mais est-ce qu'ils vont vraiment se lever la nuit?
Et bim, voilà, c'était gratuit, c'était cadeau. Ça m'a pris comme ça sous le soleil de Roland Garros.
Moi, j'aimerais savoir si Martin Scorsese et Al Pacino vont faire les nuits. Et changer la couche.
Mais oui, ils vont le faire. Je suis sûre qu'ils vont le faire. Ils dorment plus, ça y est, c'est fini. Non, ils ont 4 heures de sommeil à cet âge-là. Autant, non, ils vont être très occupés, c'est bien.
Moi, ça va leur apporter une nouvelle jeunesse, en tout cas, effectivement. On les félicite. Et puis, on va terminer les news de la semaine par justement une triste nouvelle, Mehdi.
Oui, la mort de Philippe Pozzo di Borgo. J'ai peut-être écorché son nom de famille, mais en tout cas, c'est la personne qui a inspiré le film Intouchable à Toledano Nakash. Il avait 72 ans. Il était tétraplégique depuis le début des années 90. Et voilà, on pense à lui et à ce très beau personnage qu'il a laissé pour le cinéma et aussi à son héritage puisqu'il a beaucoup fait pour le handicap.
Et cette disparition a suscité une vive émotion. Hein. Gaumont a tweeté sur le compte officiel, c'était avec une grande tristesse que nous apprenons la disparition de Philippe Pozzo di Borgo dont la vie a inspiré le film Intouchable. Et puis Toledano Nakash, ils ont écrit...
C'est comme ça que je l'ai appris sur Twitter, ils ont tweeté.
Exactement.
Vraiment, ils ont fait un petit thread avec un bel hommage.
Oui, ils ont mis en acceptant que l'on adapte son histoire. Il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables. Voilà, on pense à sa famille et on vous encourage à revoir ce film absolument.
Et mention spéciale pour la musique de Ludovico Einaudi.
On écoute un extrait, ça fait toujours du bien, un extrait d'Intouchable.
Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Non, donnez-moi un chocolat.
Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne.
Ah, c'est une blague.
Ben oui, c'est une blague.
Ah, c'est une blague.
Elle est bien quand même.
Très bonne, c'est une très bonne blague.
C'est une bonne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous.
Allez.
Elle est changée.
C'est une bonne blague.
Ben oui. Il n'y a pas de bras, Philippe.
François Cluzet, Omar Sy, et on rappelle le César d'Omar Sy, du meilleur espoir pour ce film. On part retrouver maintenant notre correspondant Didier Allouche qui ne cesse de voyager. Voici son JT d'Hollywood.
Europe 1.
Clap. Le JT d'Hollywood. Didier Allouche.
Salut Laurie, salut à tous, j'espère que votre retour cannois s'est bien passé. Le mien a été un peu long puisque j'ai fait un petit détour de 3 jours par Singapour. C'est que pour continuer à être correspondant à Hollywood, il va falloir ne pas hésiter à voyager. En effet, les avant-premières hollywoodiennes ont de plus en plus tendance à avoir lieu bien loin d'Hollywood. Ainsi, à Singapour, j'ai couvert la première d'un énorme blockbuster, Transformers Rise of the Beast. Et une première, elle aussi, énorme. Projection sur monument, fans de partout, présence de toute l'équipe du film et gros feux d'artifice. Bref, les petits plats dans les grands pour un moment unique puisque c'était tout simplement la première avant-première mondiale jamais organisée à Singapour. Et je vais continuer à voyager puisque la première du nouveau Mission Impossible aura lieu à Rome dans quelques semaines. Cette tendance à l'export de premières hollywoodiennes tient surtout à une chose. Les studios se rendent compte que le marché américain ne suffit plus du tout à rentabiliser ces énormes machines au budget de plusieurs centaines de millions de dollars. Pour gagner de l'argent, il faut séduire un marché international, d'où ces premières lointaines. Ça, c'est la raison officielle. L'officieuse est un peu moins jolie. La grève des scénaristes bat son plein à Hollywood et les studios craignent tous que des piquets de grève n'apparaissent aux portes d'une de leurs premières. C'est sûr que des images de grévistes sur première, c'est pas très vendeur. Du coup, on voyage et ça tombe bien, moi, j'adore les voyages.
Ah bah nous aussi on adore les voyages, hein, Sophie, Mehdi.
Toujours et surtout avec Didier.
Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Didier, on vous retrouve la semaine prochaine évidemment pour un nouveau JT d'Hollywood. Et puis ne bougez pas, Camille Chamou arrive dans un instant dans notre studio, toujours en direct de Roland-Garros sur Europe 1, radio officielle du tournoi. A tout de suite.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 et bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Clap, votre pause cinéma et nous avons la chance de vous parler depuis Roland-Garros, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Alors au milieu de cette frénésie du tennis, eh bien nous on a choisi de vous parler d'une comédie réjouissante. C'est aussi une grande frénésie mais c'est la frénésie du couple, ça s'appelle Le Processus de Paix, ça sort le 14 juin. Bonjour Camille Chamou.
Bonjour.
Alors je suis ravie de vous accueillir en direct de Roland-Garros sur Europe 1. Déjà première question qui n'a rien à voir avec le film, est-ce que vous aimez le tennis?
Oui, alors enfin, c'est comme l'enfance pour moi le tennis, parce que le moment où je me suis intéressée au tennis, comme tous les gens qui ne sont pas vraiment des aficionados, c'était entre 0 et 10 ans pour pouvoir parler de trucs dans la cour de récré. et pour avoir des sujets communs avec mes frères. Donc j'ai adoré le tennis jusqu'à 10 ans. Après, je vous cache pas que j'ai un peu lâché la rampe.
Et puis on revient quand il y a une belle finale, voilà.
Exactement.
Je suis bien d'accord. Alors Camille, dans Le Processus de Paix, qui est aussi prenant, hein, je le disais, qu'une finale de Roland-Garros, vous jouez aux côtés de Damien Bonnard, l'histoire d'un couple à l'épreuve des enfants.
Charte universelle des droits du couple.
Alors, pour commencer, les insultes sont interdites.
On ne mord pas son conjoint.
On ne ment pas. On se dit merci.
Jamais sans dormir fâché.
Et moi, j'ai la règle numéro 8. Baiser ouais, beaucoup c'est... plus, rajoute le beaucoup. Waouh. J'ai l'impression qu'on a découvert le calme.
Eh ben oui, enfin, vous avez reniqué.
Ce que je te propose, c'est qu'on se dise, une fois pour toutes, vraiment ce qui nous crispe. Et on se dit tout. Ça te va ou pas?
Bon, merci d'avoir écrit ce film adapté de ma vie, Camille Chamou. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de le voir à l'écran. Je plaisante évidemment. C'est un film que vous avez coécrit avec Ilan Klipper, le réalisateur.
C'est pas du tout d'ailleurs un miroir de nos vies non plus.
Non,
absolument pas.
Vraiment pas.
C'est un film qui, je pense, fait un effet miroir pour beaucoup de gens. C'est un film qui passe dans les coulisses du couple.
C'est ça.
Du couple avec enfants en bas âge notamment. Et dans les coulisses interdites normalement. Enfin, et au cinéma et dans la vraie vie, il n'est pas de bonne aloi de dire « c'est l'enfer ».
Oui, c'est vrai.
Mais un enfer pavé de joie.
Alors ce que j'allais dire, c'est vrai, c'est très drôle, c'est que ce film, effectivement, nous met face à un enfer et qu'à la fin du film, on est très nostalgique, on en a envie encore plus de cet enfer.
Ah bah alors ça c'est bien, si c'est un c'est enfer addictif,
ouais.
c'est le principe d'un bon film, je suis contente.
Je suis d'accord. Alors racontez-nous un petit peu, donc vous avez coécrit avec Ilan, vous êtes inspirée de qui en vrai? Vous avez mis quoi, qui, quoi?
Au début, voilà. Moi je suis arrivée avec l'idée d'un couple, d'un film qui s'appellerait La Paix, sur un couple qui vraiment vraiment fait tout pour ne pas se séparer. Notre idée de base, c'était vraiment ce couple qui s'aime, mais qui peut plus se blairer. et qui trouve des solutions parce qu'ils ne veulent pas se séparer et qu'aujourd'hui, tout le monde se sépare. C'est presque une solution de facilité, la séparation.
Et il le dit d'ailleurs, Damien Bonnard, exactement. Dans le film. Il dit, on ne se sépare pas, on travaille la relation.
On trouve des solutions, exactement. Ouais. On travaille la relation. Et en fait, l'idée de base était d'un couple qui essaierait de trouver toutes les solutions pour faire la paix. Et un jour, pendant qu'on écrivait le film avec Hélène Clipper dans un café, il y a un garçon à qui on a parlé qui nous a raconté qu'il avait fait une charte de parentalité. Et on a trouvé ça fou et on s'est dit, mais c'est le point d'orgue du film, en fait, c'est notre clé. C'est pas juste, ils essayent de faire la paix, ils font une charte.
Oui.
Et c'est devenu voilà, la charte universelle des droits du couple, qui est un petit peu le pivot du film.
Et c'est très drôle. Alors, cette charte, c'est donc une liste qui répertorie les droits et les devoirs de chacun pour que la vie soit à nouveau un petit peu plus harmonieuse, on va dire, dans le couple. Il y a pas mal de règles. Les insultes sont interdites. Il faut faire l'amour beaucoup plus.
Oui.
On ne se fait pas de petites remarques l'un et l'autre quand on s'occupe des gosses.
Bah, moi, pas de petites remarques. Je pense que c'est la règle.
C'est la règle d'or. En fait. Oui, c'est ça.
Parce que les petites remarques, ça vient quand même comme... Au bout d'un moment, c'est comme une perceuse. C'est insupportable. La moindre petite remarque vous hérisse.
C'est laquelle, celle qui vous hérisse le plus ?
Alors moi, c'est vraiment très prosaïque. Hein. Moi, c'est un rapport au lave-vaisselle, parce que je ne mets jamais rien dans le lave-vaisselle, dans la vraie vie, jamais. Et moi, la remarque que je fais à mon mec qui le rend fou, par exemple, dans la vraie vie, c'est qu'il ne ferme... Ça, d'ailleurs, je crois que vous l'avez gardé. Il ne ferme pas les... Rien.
Ah bah oui,
il ne ferme rien. Il ne ferme ni bouchon, ni porte, ni frigo. Rien n'est fermé. On vit dans une sorte de champ complètement ouvert. Tout est battu aux quatre vents. Et donc, moi, j'ai l'impression de passer ma vie à passer derrière pour fermer des choses. Et c'est
mais
marrant.
Bon, si lui, il rince la vaisselle et qu'il la met dans le lave-vaisselle, il a tous les droits.
Mais pas de petites remarques, c'est la base du couple. Faut lâcher.
Donc, vous l'aurez compris, le processus de paix qui sort au cinéma le 14 juin, qui parle du couple avec beaucoup de tendresse. Un couple qui s'aime, mais bon, qui se fait dépasser par le quotidien aussi.
Ouais. Exactement.
C'est compliqué, le quotidien.
C'est le plus grand défi de vivre avec quelqu'un, en fait, et de rester avec quelqu'un. C'est un défi énorme et on ne pense pas à ça. Surtout quand on s'aime profondément et on pense pas du tout à ça, on pense pas aux obstacles gigantesques. Et d'ailleurs, personne vous le dit vraiment parce qu'en réalité, les gens vous disent rien tant qu'ils sont pas séparés. Et un jour, ils vous disent on se sépare ou je me sépare. Ouais, autre expression. Et là, t'es là, ah bon, mais ça allait hyper bien. Pas du tout, c'était l'enfer. Depuis combien de temps ? 13 ans. Ah bon ? Mais c'est incroyable. Donc en fait,
et on n'est jamais dans l'intimité du couple.
Oui, et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette comédie qui est pour nous extrêmement profonde, mais où on espère qu'on rit beaucoup,
énormément.
Parce que les gens se sentent moins seuls, en fait. Moi, j'aurais aimé que ce film existe avant moi. J'espère que ça fera cet effet. Voilà, exactement.
Mais oui, Camille Chamou, on rit beaucoup. Moi, par exemple, il y a une scène qui s'est encore passée ce matin chez moi, la couche de caca qui déborde.
Bien sûr.
Ouais, voilà, quand on est jeune parent, ça nous parle. La peur du noir, le problème de la tétine aussi.
Exactement, exactement. Parce qu'on a personne n'a le même avis.
Non.
Et en fait, l'éducation des enfants petits, notamment, ça fait ressurgir des choses extrêmement profondes et névrotiques. En fait, c'est marrant, ce film, ça aurait pu être un drame, aussi bien qu'un drame, une tragédie ou une comédie, ça dépend de où vous vous placez et de quel espoir vous mettez. Nous, on a choisi d'y mettre énormément d'espoir. On ne dira pas du tout vers où le film va, mais pour nous, il y a énormément de joie et d'espoir malgré les difficultés. Mais ce qui est important pour nous, c'est pas tant la conclusion, c'est que c'est des gens qui cherchent des solutions. Et d'ailleurs, dans le film, tous les gens qui croisent, ils ont des solutions. Non, mais attends, ce que tu fais, c'est que tu passes jamais de vacances ensemble déjà. Ça, c'est une vraie solution. Ah bon ?
Ah, bah oui.
Et voilà, des trucs comme ça, c'est-à-dire le moins tu te vois, le mieux c'est. Ah bon ? Et en fait, je trouve ça chouette que, bon voilà, tous ces personnages essayent de donner des clés, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, c'est pas tant le problème, l'idée qui est belle à notre avis, c'est d'essayer.
En tout cas, t'es de bonne humeur, ça fait plaisir à voir ça.
Est-ce que t'as vu que j'avais rangé là tout ton bordel ou pas, la vaisselle ? Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression que t'as des lunettes spéciales. Il y a des trucs que tu vois et il y a des trucs que tu vois pas, on dirait.
Eh ben oui, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on voit pas. Extrait du processus de paix au cinéma le 14 juin. Nous sommes toujours en direct de Roland-Garros. Camille Chamou est notre invitée pour notre plus grand bonheur, pour ce film qu'on a tellement, tellement aimé. Camille Chamou, vous jouez aux côtés de Damien Bonnard. Qui a choisi Damien ? Parce que vous avez coécrit le film, vous avez eu votre mot à dire ?
Oui. Pour ce choix.
Alors pour le coup, oui, il y a beaucoup de choses que le réalisateur a choisi évidemment tout seul, mais on s'est quand même beaucoup parlé, on a écrit le scénario ensemble, donc on s'est énormément consulté sur beaucoup de choix. Et l'idée de Damien, en fait, nous, le personnage de Simon, c'est un personnage d'homme qu'on adore parce que il est adorable, vraiment hyper gentil. C'est un extrêmement gentil père, un extrêmement gentil compagnon, mais il a du mal, il est inadapté. Et oui. Moi, j'ai beaucoup d'amis comme ça, d'amis garçons que j'adore et qui ont qui sont extrêmement touchants, extrêmement sympas, mais ils sont empêchés, quoi.
Puis il est nerveux, hein.
Et très,
au quart de tour, voilà.
Alors tous les deux, ils passent de 0 à 100 en une seconde. Mais après ça, moi je pense qu'au bout d'un certain temps de couple, on passe quand même c'est là là là, les oiseaux chantent, et d'une seconde à l'autre, sur un truc, on peut partir très très vite. Donc voilà. Et Damien, il avait ce côté extrêmement tendre, mais empêché, maladroit, qui nous a tout de suite séduit, quoi.
On va continuer à parler du processus de paix avec vous, Camille Chamou, dans un instant. Ne bougez pas. Clap en direct de Roland-Garros revient à tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci Camille Chamoul d'être là pour parler du processus de paix. Donc je disais, notre comédie coup de cœur de la semaine, un film qui parle du couple. Quel est votre regard à vous sur la vie conjugale?
Je vous dis, moi c'est très agréable parce que c'est une source d'inspiration permanente. Donc en tant qu'artiste, je peux dire que ça m'a permis d'écrire un spectacle et un film.
Et oui.
Vraiment merci. Par ailleurs, ce qui est super, c'est que quand même il y a des éclats, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des éclats de joie. D'ailleurs, je trouve quand même que c'est présent dans le film, heureusement.
Bien sûr.
Il y a des éclats. D'ailleurs, le film commence de manière extrêmement chaleureuse et joyeuse et pam, ça bascule. Mais il y a c'est quand même aussi un hommage aux gens qui s'aiment et qui essayent de tisser une vie meilleure ensemble, qui essayent de faire un chemin vers l'autre, quoi.
Et alors, c'est aussi un hommage aux femmes, hein, à travers donc votre personnage, sa vie de couple, sa vie de maman, mais sa vie aussi au boulot, sur la question des salaires, la question du sexisme aussi, notamment. Ça aussi, c'est du vécu, Camille Chamou?
Oui, moi j'ai traversé plusieurs sphères professionnelles et avec beaucoup de joie d'ailleurs, dont la radio d'ailleurs. Et Marie, elle travaille à la radio dans le film parce que moi c'est un univers que j'adore. C'est vraiment une expérience que j'ai trouvée super. Sur Europe d'ailleurs, j'ai travaillé en 2012 sur Europe et c'était vraiment une expérience que j'ai adorée. Et en revanche, c'était pour moi très important de mettre dans le rapport professionnel cet élément que beaucoup de femmes vivent, qui est que c'est une lutte
permanente
pour ne pas avoir un retour un peu paternaliste ou un léger, que les choses ne soient pas teintées d'un léger, comme si vous faisiez le sous-métier de vos collègues. Donc c'est pour ça que j'ai choisi exprès qu'elle fasse une émission carrément sur le plaisir féminin.
Ouais, qui s'appelle Point G.
Qui s'appelle Point G, exactement. Et que dans la radio, tout le monde sous-considère un peu, alors que c'est une émission qui fait une super grosse audience. Mais, c'est une émission sur le plaisir féminin. Elle est mignonne avec son émission, mais bon, c'est quand même... Bon. Et donc, pour moi, c'était important de parler de ça, de ce rapport au travail, et également de son rapport global de lutte. Parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, c'est absolument génial, il commence à y avoir une égalité dans plein de domaines, mais c'est vrai que dans le domaine professionnel, on n'est pas encore là.
Non.
On n'est pas encore là sur l'égalité des salaires, on n'est pas encore là sur l'égalité de traitement, et je vois, moi, pour faire beaucoup de podcasts avec des jeunes femmes, pour avoir beaucoup, là maintenant que je suis en promo par exemple, travailler avec des médias exclusivement féminins, féministes, effectivement les filles, je dis, mais c'est génial cette génération de filles, mais alors vous travaillez qu'entre vous et tout, oui, parce que là, on a l'impression de faire un sous-travail, une sous-radio, une sous-télé. Et ça change, hein, je veux dire, ça évolue beaucoup. Vous dirigez une émission formidable et hyper écoutée. Y a Donc, ça change vraiment beaucoup.
Oui,
les choses évoluent, honnêtement. Mais pour moi, c'était important de faire un portrait de femme qui soit fidèle à ce que nous traversons.
Et c'est très réussi. Alors, pour en parler pendant des heures, vous abordez aussi la sexualité de la femme après 40 ans. Hein. Vous dites même que d'ailleurs, je ne retrouve plus la phrase exacte, mais qu'au niveau cul, une femme de 40 ans...
C'est le meilleur moment.
C'est le meilleur moment, voilà, c'est ça, puisque vous êtes une femme libérée. Et puis dans un tout autre registre, rien à voir avec la sexualité, sexualité des femmes. Mais il y a cette musique du ghetto de Varsovie, il y a toute la culture juive ashkénaze qui me parle beaucoup et qui est très drôle aussi, ouais, à travers le personnage joué par Damien Bonnard.
Exactement, ouais. De Simon Altman, donc mon époux, mon conjoint chéri dans le film. Et lui est obsédé de manière privée. Alors en fait, c'est lié à son métier puisqu'il est prof à la fac et il est prof d'histoire, dans une idée de paix d'ailleurs. Hein, c'est exactement ce qu'a fait Ilan Klipper. Ilan Klipper, il a fait une thèse, le réalisateur a fait une thèse sur espoir et tentative de paix dans le conflit Israël-Palestine. Et moi, j'ai adoré les discussions qu'on avait à cet égard et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce métier-là et d'appeler pour Simon et d'appeler le film Le processus de paix parce qu'Ilan m'a toujours dit non, mais attends, ces deux peuples qui se ressemblent énormément, ils ont tout pour s'entendre. Ils devraient faire la paix. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui les solutions pour qu'ils fassent la paix. Mais il y a toujours un truc qui vrille. Mais ils peuvent faire la paix. Et lui, il continue à y croire, Ilan. Il dit, mais il y aura un jour une paix Israël-Palestine. Et il dit, dans le couple, finalement, moi, je me dis toujours, c'est la même
c'est
chose.
Que j'allais dire, si ça ne tenait qu'à cette charte, ce serait formidable.
Voilà, c'est ça.
Camille Chamou, on va aussi parler des films de votre vie. Si je vous demande votre première grande émotion au cinéma.
Alors, moi, c'était L'Histoire sans fin, que j'ai montré d'ailleurs il y a 2 mois à mon fils. Et c'est marrant, c'est pas du tout un film qui a mal vieilli. Parce que je ne l'avais jamais revu. Et quand je l'ai revu, un film de 84 et j'en ai un souvenir incroyable, mais incroyable, vraiment. Alors c'est dans le film dans L'Histoire sans fin que j'ai appris l'existence du mot néant et le concept du néant, parce que le néant avale tout dans le film. Il y a une espèce de notion un peu métaphysique et j'étais là, le néant, mais qu'est-ce que c'est que le néant? Et après, quand vous allez à l'école, quand il y a pas d'absent, la prof elle marque néant, absent, néant, et j'étais là, ah bon, mais alors qu'est-ce que ça veut dire le néant? C'est genre le rien. Et L'Histoire sans fin, ça m'a appris plein de trucs comme ça. Je me souviens, les sables mouvants, il y a un cheval qui ça s'enfonce dans des sables mouvants et après j'étais toujours hyper vigilante à la plage, j'étais là, attention à ce qu'il n'y ait pas de sable mouvant en rapport au cheval de l'histoire. Enfin, voilà, c'est une vraie émotion de cinéma.
Ah bah pour le plaisir, on écoute un extrait.
Artax, tu t'enfonces, fais un effort, retourne-toi, vite, retourne-toi, lutte contre la tristesse, Artax.
Je t'en prie, te laisse pas envahir par la mélancolie des marécages. Tu dois essayer, tu dois y arriver, pour moi. Tu es mon ami. Je t'aime.
Bon, moi, c'est hallucinant. Pleurer, hein. Non, mais je pleure encore, moi. Mais moi, j'avais oublié que c'est une métaphore de la dépression et de la tristesse. Le cheval s'enfonce
contre la mélancolie.
Lutte contre le chagrin, lutte contre la mélancolie. C'est hyper beau. Et en plus de ça, il y a une histoire dans une histoire. Et moi, c'est ma passion. En ce moment, j'écris une série comme ça. J'adore les histoires dans les histoires. Enfin, il ouvre un livre. Oui, et en fait, ça. Il plonge dans le livre. Et j'adore ces trucs-là.
Votre film qui vous rend heureux?
Alors, il y a une comédie romantique que j'adore, chorale, c'est Love Actually. Je suis très peu du genre à regarder plusieurs fois les films, mais Love Actually, je l'ai vu plusieurs fois, mais j'avoue.
Vraiment. Écoutez, célébrer Noël en plein été.
C'est magnifique. Non, mais c'est génial, il n'y a que des scènes mythiques.
Et puis là, c'est pas une histoire dans l'histoire, mais c'est plein d'histoires en parallèle.
C'est le meilleur film choral.
Sans boîte, c'est super.
Ce film, dans son...
Camille Chamou, le film le plus traumatisant que vous ayez vu?
Oui, alors ça remonte. Hein, ça remonte à il y a longtemps, c'est Les Gremlins. Ouais. Mes frères m'ont montré.
Faut pas le voir trop jeune, en fait.
Non, mais c'est atroce. Mais enfin, ça va pas ou quoi? Et en plus, il y a un truc très anxiogène dans Les Gremlins, parce que les choses très mignonnes peuvent en fait être très dangereuses.
Oui.
Puisque c'est vraiment des petits animaux trop choux, et quand ils se prennent une goutte d'eau, c'est ça, hein?
Ouais, c'est
pas
ça.
Revu pour le coup, je l'ai jamais revu.
C'est ça.
J'ai pas de mon frère, mon fils. Ils deviennent atroces. Et en fait, je me disais, mais c'est horrible, on ne peut jamais. Faire confiance, quoi.
C'est la goutte d'eau, la lumière.
Ah bah, horrible, horrible. Ah oui, la lumière aussi, tiens, j'avais oublié. Donc voilà, Les Gremlins. Et puis après, le film qui m'a réellement traumatisée, ado, c'est La Liste de Schindler, mais alors pour le coup, en bien, parce que ça m'a fait prendre conscience, voilà, de la Seconde Guerre mondiale, de manière, dans ma chair et dans mes sentiments, et non pas par l'histoire qu'on vous apprend au collège ou de manière académique. Et je trouve ce film extraordinaire. Pour le coup, c'est pareil, je regarde peu les films, mais c'est un film que j'ai vu 3 fois.
Moi aussi, je l'ai vu énormément
de
fois.
Très, très beau, et il ne périme pas. Enfin, je veux dire, Bon, c'est Spielberg.
C'est ce que j'allais dire. C'est Spielberg. Et pour rappeler l'histoire, c'est l'histoire d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui a réussi pendant la Seconde Guerre mondiale à sauver environ 1200 juifs des camps de la mort.
C'est injuste.
Ce film est incroyable avec Liam Neeson, Ralph Fiennes ou encore Ben Kingsley. Camille Chamou, le film que vous avez le plus vu dans votre vie?
Alors voilà, ça c'est le dernier.
Parlons-en.
C'est Pretty Woman. Puisque alors Pretty Woman, j'ai un petit truc, c'est que je suis allée le voir avec ma mère, ce qui était complètement décalé parce que j'étais vraiment jeune. Et je pense qu'elle s'est dit, mais pourquoi j'emmène une gamine voir Pretty Woman?
Non, l'histoire d'une
elle était persuadée. En fait, elle savait pas ce qu'elle m'emmenait voir, je crois. Et je vois très bien comment on peut être piégé dans un truc comme ça. Elle avait pas trop regardé dans la queue, on savait pas ce qu'on allait voir. Je me souviens exactement du truc. Hein. Et elle m'emmène voir, et on tombe devant Pretty Woman, et pendant tout le film, elle est là, oh non, viens, on y va. Et moi, j'étais là, mais jamais, c'est beaucoup trop génial. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose géniale? Et après, je l'ai revue. J'avais une correspondante allemande en 6e ou 5e qui était fan du film aussi, pareil, qu'il avait vu, je sais pas comment, parce qu'on était vraiment beaucoup trop jeunes pour voir ça.
Et quel âge quand vous dites trop jeune?
C'était en 6e ou 5e, ma correspondante allemande.
Oui, quand même.
Et on avait, mais adoré. En plus, on se disait pas du tout prostitution, je sais pas quoi. On disait, oh, trop bien.
Ouais, elle est belle. Et puis, elle a pris dans un hôtel de luxe et on lui achète des belles tenues.
Ouais.
Camille Chamou, votre séance de cinéma la plus dingue?
Alors moi, j'ai un époux grec et il m'emmène en Grèce tous les étés. Et il y a une île en Grèce, ça s'appelle Skiathos, qui est dans les Sporades. Et il y a d'abord, partout en Grèce, il y a des cinémas en plein air. C'est des gens qui ont tout compris à la vie.
Ah oui.
Parce que le cinéma en plein air, c'est extraordinaire. D'ailleurs, à Paris, il y en a un à la Villette tout l'été. À chaque fois, moi, j'adore. Et le cinéma en plein air, c'est autre chose. Vous êtes sous les étoiles et ils montrent tous les jours Mamma Mia, la comédie musicale Mamma Mia, que moi j'avais jamais vue, mais alors la découvrir, c'est parce qu'elle a été tournée à Skopelos et Skiathos, la découvrir sous les étoiles, c'est extraordinaire, c'est un plaisir inouï, et tout le monde se lève et se met à danser à chaque tube.
C'est génial. Bah voilà, un peu de musique.
Ah ouais, c'est génial. Ah, c'est extraordinaire. Et ça, Mamma Mia sous les étoiles, je le conseille à n'importe qui, à Skiathos.
Camille Chamou, si vous ne deviez garder qu'un seul film de votre filmographie, pour terminer ce questionnaire.
De ma filmographie, je dirais... alors peut-être Les Gazelles, parce que c'est le premier que j'ai écrit et que j'ai, dont j'ai interprété le premier rôle. Donc c'était comme une sorte de porte que je poussais dans le monde du cinéma et qu'il était adapté de mon premier spectacle. Donc c'est un grand souvenir.
Et puis le processus de paix qui
évidemment
sortira
le 14 de paix, juin. Le 14 juin, qui est mon préféré. Il faut toujours que c'est ton préféré quand il
toujours sort. Le dernier.
Vrai.
Toujours le dernier.
Toujours le dernier.
Avant
d'avoir génial.
Encore un autre, encore mieux, encore un coup de cœur. Merci beaucoup Camille Chamou, c'était un vrai plaisir. Et je vous avais demandé quel serait le titre du film de votre vie. La réponse était Jamais battu. Ça nous va parfaitement avec la thématique du jour.
Bravo, Roland-Garros.
À Roland-Garros.
Jamais battu, je trouve
voilà,
qu'on est très
on est pas mal, franchement. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. C'était un vrai plaisir. Je rappelle donc la sortie du processus de paix le 12 juin au cinéma. Dans un instant, Sophie Rosemont et Médio Maïs décryptent l'actualité des sorties salles. A tout de suite sur Europe 1, toujours en direct de Roland-Garros.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, un clap spécial, car oui, nous sommes en direct de Roland-Garros cette semaine, tout près du mythique cours Philippe Châtrier. Mais nous, notre spécialité, c'est le cinéma. Alors tout de suite, avec Mehdi Omaïs et Sophie Rosemont, on va vous parler de l'actualité des sorties salles au programme Direction l'île de Madagascar, entre souvenirs d'enfance et histoire. On évoquera également le film d'animation à ne pas manquer. On évoquera la nouvelle comédie avec Robert De Niro, car on aime beaucoup Robert De Niro. Et puis, petit indice aussi, un héros qui aime bien les araignées. Bref, à mes côtés, Sophie Rosemont et Mehdi Omaïs, je vous l'ai dit. Mais tout de suite, on va faire un point sur le box-office. Alors les amis, petit coup de mou pour la fréquentation. Ça, c'est la météo, c'est normal, les premières chaleurs. Avec cette semaine, un podium du box-office 100% américain. À votre avis, à la première place,
Fast
Mehdi
and Furious.
Pas du tout.
Ah oui, je me suis
dit.
Oh non, mais j'ai pas révisé.
Vous me décevez, mais
non,
enfin,
qu'est-ce qui a pu battre Fast and Furious cette semaine?
J'ai dit un box-office américain.
Oui.
La petite sirène.
Mais oui, la petite sirène.
582 814 spectateurs en une semaine. Juste derrière.
Fast and Furious.
Hein. Voilà. Nettement au ralenti avec une chute de plus de 50% de ses entrées. Donc 514 000 entrées pour un cumul d'1,6 million de tickets vendus en deux semaines. Et puis en troisième position, ils sont plusieurs. Les Gardiens de la Galaxie.
Ah oui, qui est vachement bien d'ailleurs.
Qui affiche 3 millions d'entrées en un mois. Bref, on est très contents. Et à la quatrième place, L'amour et les forêts avec 220 327 spectateurs. Voilà,
très beau film de Valérie
Donzelli. Et Virginie,
on aime d'amour.
On t'aime.
Voilà. Virginie Efira qui était notre invitée la semaine dernière. Nous étions en direct du Festival de Cannes cette semaine. Europe 1 Radio officielle de Roland-Garros. Nous sommes à Roland-Garros et bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est donc Clap. On vous parle des journal des sorties. Et on commence avec L'île rouge. C'est le nouveau film de Robin Campillo qui avait réalisé le bouleversant 120 battements par minute, grand prix du jury, on s'en souvient, hein, au Festival de Cannes en 2017. Là, il s'inspire de ses propres souvenirs d'enfance et il nous raconte l'histoire de Thomas qui a 10 ans, qui vit avec ses parents dans une base militaire éloignée de tout sur l'île de Madagascar. On est au début des années 70 où l'histoire se joue. C'est la fin d'une époque. Dans le rôle de sa mère, on retrouve la sublime Nadia Tereskiewicz, encore une fois époustouflante.
Pour qui tu te maquilles comme ça ?
Arrête un peu. Moi, j'aime bien vous regarder.
Je sais, t'as toujours la qui traîne.
Tu me regardes dans des moments où on se croit seul, ou alors dans des moments où on n'a pas envie d'être regardé.
Sophie Rosemont.
Je suis complètement conquise par ce film et c'était un scandale musique, qui n'ait pas fait partie de la sélection cannoise. Non, c'est vrai, c'est vraiment très très beau. Donc l'histoire de ce petit garçon qui est clairement l'alter ego de Robin Campillo. Donc c'est très très touchant. C'est filmé à hauteur d'enfant, mais en fait tout prend énormément de sens, de symbolique. C'est à la fois onirique. Il y a des incursions de fantômettes que lit de façon compulsive le petit garçon et en même temps on est dans cette base aérienne Madagascar et donc c'est cette armée française qui est entourée de la population locale qu'on ne voit que très peu. Donc ça interroge aussi le rapport à l'altérité. Les images ensuite sont très belles. C'est l'île rouge. Donc voilà, onirique, politique, très intime, familial, parce que Nadia Tereskiewicz, une fois encore sublimissime, joue le rôle de cette mère qui clairement n'aime plus son mari, qui est un macho, mais qu'on tolère assez bien, qui est presque assez tendre. Donc vraiment, c'est un film qui prend son temps et qui se déroule de façon assez contemplative, parfois pesante, mais vraiment irrémédiablement séduisante.
Oui, je dirais que c'est un film faussement amniotique, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une bulle immédiatement, mais cette bulle, on sait qu'elle va percer. On sait que lui-même a fait ce film pour percer cette bulle, Robin Campillo. C'est un film sur les dernières illusions du colonialisme. Et en fait, on le voit, c'est-à-dire que c'est souvent hors champ que les choses se font, et sans dénaturer ou dévoiler la fin du film, mais il y a une idée de mise en scène qui est absolument prodigieuse pour raconter en fait cette histoire. Et encore une fois, juste une dernière chose, Nadia Tereskiewicz est une actrice non seulement extraordinaire dans ce film, mais extraordinaire tout court, tout juste auréolée du César du meilleur espoir féminin pour Mon Crime, qui a cartonné. Et voilà, on a hâte de
meilleur,
voir...
Meilleur espoir pour le film de Valéria Bruni.
Oui, pardon, pour Les Amandiers.
Pour Les Amandiers.
Et un million de spectateurs pour Mon Crime.
Elle était à l'affiche de Mon Crime, évidemment.
Oui, c'est la chaleur de Roland-Garros, Laurie.
C'est l'amour de Nadia Tereskiewicz qui veut perdre la raison. On continue avec un sublime film d'animation, Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est la suite des aventures de Miles Morales, le Spider-Man adolescent noir originaire du quartier de Brooklyn à New York, qui va s'aventurer aux quatre coins de l'univers pour explorer le multiverse. Vous savez, ce nom qu'on donne pour désigner toutes les réalités alternatives de notre monde. Forcément, il va faire face à de nombreux obstacles et dangers.
Non, t'es sérieuse ? Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs Spider-héros ?
Ouais, ouais.
C'est qui de nouveau ? C'est incroyable !
Et c'est que le hall d'entrée.
Comment on fait pour rejoindre la Spider-Team ?
Tu ne pourras jamais en faire partie. Miles, être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers.
Précision immédiate, comme ça je l'évacue, c'est sublimissime. C'est-à-dire qu'en fait, en termes d'animation, il tue le game. C'est une idée toutes les 3 secondes, avec plein d'univers qui cohabitent.
Le précédent avait déjà remporté l'Oscar et le Golden Globes.
Absolument, mais c'est un cran au-dessus en termes techniques. Là, vraiment, ils ont vraiment tué le game, Laurie. Moi, le problème, c'est peut-être parce que je suis un vieux con, ou je sais pas, c'est pas ma génération, mais il y a le côté multiverse, polyverse, Instaverse, TikTokverse, je sais plus comment appeler ces verses. Mais moi, cette espèce de frénésie d'images, de mondes qui se télescopent et qui est peut-être propre à la manière dont les jeunes aujourd'hui consomment sur leur tablette en scrollant, et ben en fait, il y a ça parasite et ça ne me permet pas de rentrer totalement dans l'intrigue. Il y a de la déperdition sur les personnages, sur le récit. J'ai pas de prise avec ces personnages totalement pour m'attacher. Donc oui, j'applaudis la prouesse technique, mais je m'ennuie parfois.
On en prend plein les yeux.
Oui.
Mais voilà.
Voilà.
Il y a des petites.
Mais on s'accroche à la toile.
Oh, c'est bien. Voilà. Bien. On va écouter tout de suite l'avis du public.
Il y a plusieurs Spider-Man et c'était comme dans les bandes dessinées.
C'est tellement, tellement appréciable et tellement jouissif de voir tous ces Spider-Man. Il y a du rythme, les personnages sont super bien écrits.
Absolument extraordinaire. Graphiquement, il est sublime. C'est vraiment un plaisir, tu vois pas du tout le temps passer. Il y avait tout le monde qui réagissait dans la salle, qui était en mode genre « waouh, non !» C'était une super expérience de cinéma.
Et rapidement, Sophie, on parle d'une comédie américaine, Mon père et moi, avec le seul et l'unique, on en parlait en début d'émission, Robert De Niro, qui joue le rôle qui lui va très bien, le papa grincheux d'origine italienne et fier de l'être.
Tout à fait, et c'est l'atout principal de ce film qui certes n'évite pas les poncifs, c'est une comédie familiale, divertissante, qui ne prétend pas à plus, mais Robert De Niro... Quand il s'essaye au registre comique, et ça marche toujours.
Ça marche.
Voilà. Donc, allons voir Mon père et moi.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Mehdi Omaïs, Sophie Rosemont, c'est déjà la fin de ce clap. Je rappelle que Camille Chamou était notre invitée. Merci de nous avoir suivis sur Europe 1 en direct de Roland-Garros. Europe 1 qui est la radio officielle du tournoi de Roland-Garros. On en est très fiers. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve pour Europe 1 soir. Et nous, évidemment, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau clap. Et d'ici là, vous le savez, continuez d'aller au cinéma. Très bon week-end à vous, à l'écoute d'Europe 1.